Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Lamia El-Arrage, députée de Paris, conseillère de Paris et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Lamia El-Arrage, vous êtes proche d'Anne Hidalgo. Pourquoi vous semble-t-elle la plus à même de représenter la gauche à l'élection présidentielle ?
Alors, Anne Hidalgo a été investie par le Parti Socialiste le 14 octobre dernier, puisque c'était le soir où a eu lieu le vote de l'ensemble des adhérents du Parti Socialiste qui l'ont portée comme étant notre candidate dans le cadre de l'élection présidentielle qui a lieu en avril prochain. Donc, Anne Hidalgo est actuellement sur des fonctions importantes à la tête de la ville de Paris. Elle est à la tête d'une administration importante. Elle a la capacité à gouverner, la capacité à gérer un certain nombre de situations de crise extrêmement importantes. Par exemple, les attentats de novembre 2015 qui ont été, assez traumatisants pour notre capitale et qu'elle a réussi à prendre en charge de façon importante. C'est aussi une femme qui a une stature internationale assez importante. Par exemple, la question des Jeux Olympiques qu'elle a portée à bras-le-corps pendant de nombreuses années, qui auront lieu en 2024 prochain dans notre pays. Elle a aussi été très engagée sur des questions relatives à l'écologie à l'échelle internationale, notamment via un certain nombre d'associations de maires internationaux, de maires francophones. Donc elle a aussi cette stature internationale. Et enfin, c'est une femme de conviction et de détermination qui mène beaucoup de combats avec beaucoup de courage et de pugnacité, et je crois que c'est exactement ce dont on a besoin dans le contexte de crise qu'on traverse actuellement.
Pour vous qui la connaissez bien, quelles sont ses principales qualités pour diriger la France ?
Tout d'abord, c'est une femme qui est profondément de gauche, profondément social-démocrate. Donc elle est très engagée sur un certain nombre de valeurs qu'on a en commun, celles relatives à la justice sociale, celles relatives à l'égalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on permet à tous les enfants de la République de bénéficier des mêmes opportunités, quelles que soient leurs conditions de départ dans la vie, celles relatives aussi à la République et à l'état de droit. Et on a tendance, actuellement, quand on entend un certain nombre de discours de haine, de discours discriminants ou racistes, négatifs, pour certains, je crois qu'on a besoin de retrouver la République apaisée, la République des valeurs qui sont les nôtres et qui sont celles qu'on a en partage, liberté, égalité, fraternité, entre autres. Une autre de ses qualités majeures, c'est la capacité d'écoute et l'empathie. C'est quelqu'un qui aime profondément les gens, qui a en capacité d'entendre, de prendre en compte et d'ajuster les politiques publiques qu'elle propose en fonction de la réalité de nos territoires. Elle est profondément réformiste et je crois que c'est là aussi extrêmement important. Notre pays traverse une crise sans précédent et il est temps qu'on puisse y apporter des réponses qui sont à la fois adaptées au terrain, mais aussi et surtout qui soient en adéquation avec les aspirations des Françaises et des Français et qui visent à apaiser et non pas les opposer les uns aux autres, comme c'est le cas depuis maintenant presque 5 ans.
Lamia El-Arrage, lors de l'annonce officielle de sa candidature à Rouen, Anne Hidalgo a déclaré qu'elle voulait bâtir une France plus juste, plus forte. En creux, cela signifie que la France d'aujourd'hui est toujours confrontée à des injustices et aussi qu'elle s'est affaiblie.
Oui, tout à fait. On traverse un certain nombre de crises qui le prouvent, je crois. On a tendance à oublier que les Gilets jaunes, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et que cette crise des Gilets jaunes, elle est venue exacerber des tensions qui sont liées aux inégalités, aux sentiments d'inégalité. Quand aujourd'hui, on a des familles qui travaillent, qui ont un ou plusieurs enfants, et qui n'arrivent pas à vivre dignement des revenus de leur travail, c'est absolument insupportable. Ce que les gens veulent vivre aujourd'hui, c'est une situation plus juste, une situation où on peut prendre soin de soi et de ses proches, une situation où on peut aussi vivre dignement. Et aujourd'hui, clairement, c'est pas le cas. Regardez l'augmentation de l'énergie, regardez l'augmentation de l'essence, regardez l'augmentation du chauffage. C'est absolument inacceptable. Et je crois que c'est une situation que les gens vivent au quotidien et qui est profondément injuste. Donc là-dessus, je crois qu'elle a tout à fait raison. Après, sur la question de l'affaiblissement, depuis quelque temps, on entend des discours qui opposent les gens les uns aux autres, qui les ramènent au plus petit dénominateur commun qu'ils peuvent avoir, à savoir leur origine, leur prénom, leur couleur de peau, ou je ne sais quelle conviction qui peut être la leur. Mais c'est pas ça, faire République ensemble, c'est pas ça, rendre la France plus forte. On la rend plus forte en étant plus inclusif, en portant très fort les valeurs de la République, et surtout en faisant en sorte que chacun puisse trouver sa place. Et c'est clairement pas le cas aujourd'hui avec le gouvernement d'Emmanuel Macron.
Pour l'instant, Anne Hidalgo a fait peu d'annonces sur son programme. Quels seront les axes de sa campagne ?
Elle a commencé à les esquisser. Tout d'abord, celle relative à la justice sociale, c'est-à-dire, c'est ce qu'on évoque là depuis tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun puisse vivre correctement, dignement, puisse vivre de façon paisible pour lui et pour ses enfants. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce relatif à l'urgence climatique et à la transition écologique. Aujourd'hui, la planète brûle et on ne peut plus regarder ailleurs. Il est temps d'agir très fortement sur les questions relatives au climat. Ensuite, des sujets inhérents à l'école. Elle a eu l'occasion, là aussi, de dessiner un certain nombre de perspectives, parce que l'école, c'est le berceau de nos enfants. C'est là où se crée l'égalité de la République, c'est le lieu des apprentissages, c'est le lieu où nos enfants apprennent à faire communauté de vie ensemble. Et là-dessus, je crois que c'est extrêmement important qu'on puisse revaloriser l'école avec un grand E.
Alors, revaloriser l'école, Anne Hidalgo va annoncer des mesures en faveur notamment des habitants des quartiers populaires pour que l'école républicaine permette à nouveau l'ascenseur social, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans toute la France.
Je crois que globalement, ce qu'elle va annoncer, c'est des mesures en faveur davantage d'équité et d'égalité au sein de l'école. C'est-à-dire que ce soit les quartiers populaires, que ce soit les zones rurales, que ce soit les grandes métropoles, que ce soit un certain nombre d'autres lieux de la République, il faut que les enfants de la République puissent bénéficier des mêmes opportunités, du même cadre d'apprentissage, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et quelle que soit la famille dans laquelle ils sont nés. C'est extrêmement important. Et là-dessus, il faut qu'on porte des mesures courageuses en faveur de l'école. Elle a commencé à dessiner un certain nombre de perspectives sur la question de la revalorisation du métier d'enseignant, sur la question de davantage de moyens en faveur de l'école et comment est-ce qu'on va plus loin pour que tous les enfants de la République puissent avoir les mêmes opportunités. C'est vrai que je répète beaucoup cette phrase, mais c'est un mantra dans mon engagement politique. Je suis particulièrement fière que Anne Hidalgo le porte en étendard. C'est aussi une des raisons majeures pour lesquelles je crois très fortement que le projet qu'elle porte est celui dont on a besoin dans les prochaines années.
Lamia et la rage, Anne Hidalgo est confrontée à de mauvais sondages. Actuellement, on parle aussi de la division de la gauche qui pourrait l'inciter à se rapprocher de Yannick Jadot. Quel regard portez-vous sur ces difficultés actuelles ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler à ce stade de difficultés. La réalité, c'est qu'on est dans le cadre d'une campagne présidentielle qui n'a pas encore démarré. Un certain nombre de partis politiques ou un certain nombre de candidats ne sont pas à ce stade déclarés. Par ailleurs, je crois qu'il faut être extrêmement méfiant vis-à-vis des sondages. Je donnerai deux exemples. Le premier, en octobre 2016, j'ai fait cet exercice d'aller chercher un petit peu ce qui s'est passé il y a maintenant pile poil 5 ans. En octobre 2016, on ne savait toujours pas que François Hollande ne se représenterait pas et Emmanuel Macron n'existait absolument pas encore dans les sondages. Il n'était pas encore testé. Il a été testé pour la première fois fin novembre 2016. Donc c'est important de se souvenir de ça. Le deuxième exemple que je donnerai, c'est que un mois avant les régionales, on annonçait que le Parti socialiste perdrait tout ou partie des régions qu'il avait en responsabilité et que potentiellement il en conserverait une, à savoir peut-être la région Occitanie. Bon, la réalité sortie des urnes, donc la réalité du scrutin, quand les Françaises et les Français se sont déplacés pour aller voter, n'a pas du tout été celle dessinée par les sondages. Donc je les regarde, je veux dire, avec curiosité, mais sans inquiétude. Sur la question de la division de la gauche, on regrette effectivement qu'il n'y ait pas eu de candidature commune à ce stade. Pour autant, je crois qu'il faut que les projets se dessinent, que les candidatures fassent leur cheminement et amènent leur dynamique. Et je ne suis pas très inquiète pour la suite, en tout cas sur la question de la dynamique de campagne.
Lamia et Larage, vous avez évoqué Éric Zemmour. Comment sortir des débats identitaires imposés par ce possible candidat, mais aussi les commentateurs politiques?
Alors, j'ai pas évoqué Éric Zemmour en tant que tel. J'ai parlé du contexte politique actuel qui nous amène à deux choses. D'une part, l'exacerbation des haines, c'est-à-dire que on est dans une phase de rejet systématique des individus pour une raison X ou Y. On a tous en soi quelque chose qui déplaît à son voisin. Faut pas être naïf par rapport à ça. Le vrai sujet, selon moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble. La deuxième problématique, si je puis dire, qui à mon avis permet à ce type d'individualité de pouvoir exister, c'est qu'on est dans un climat de tension sociale extrêmement important et que ça exacerbe un certain nombre d'inquiétudes tout à fait légitimes de la part de nos concitoyens. Comment vivre demain? Comment payer mon plein d'essence? Comment vivre avec mon voisin? Comment est-ce que je dois me comporter? Ces peurs, elles sont légitimes, mais moi je ne crois pas qu'on y réponde en exacerbant les haines ou en agitant ces peurs en étendard. Je crois que ces peurs doivent nous servir en tant qu'hommes et femmes politiques en responsabilité à proposer un projet de société qui réponde à ces inquiétudes et non pas qui les nourrisse. C'est ça que portent les candidats ou les potentiels candidats de l'extrême droite, qui n'est clairement pas ma famille politique. Mais au-delà de ces peurs, il y a un discours aujourd'hui qui est inacceptable. On ne peut pas porter de discours raciste ou de discours antisémite dans notre société, parce que le racisme ou l'antisémitisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits passibles de poursuites pénales. Et là-dessus, je crois que notre responsabilité collective, c'est de mettre un frein, un stop à tout ça, parce que on ne peut pas accepter que quelqu'un puisse porter de tels propos dans les médias ou dans l'opinion publique.
Lamia et la rage, Anne Hidalgo a soutenu le combat des sages-femmes qui demandent une meilleure rémunération et plus d'embauches aussi dans leur secteur. La situation des sages-femmes, elle est emblématique pour vous de la façon dont on traite le personnel de santé?
Tout à fait. Écoutez, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu un certain nombre de représentants des sages-femmes, à la fois du collège des sages-femmes, de syndicats et des étudiants et étudiantes en maïeutique, donc des étudiantes sages-femmes, pour échanger avec eux sur leur situation. Leur situation est extrêmement emblématique. Ce sont des professionnels de santé qui ont été extrêmement mobilisés à nos côtés, déjà de longue date, mais au-delà de ça, dans le contexte de crise sanitaire qu'on a traversé, qui se sont mobilisés sans poser de questions, sans se poser de questions. Voilà. Aujourd'hui, on leur explique en gros qu'on leur oppose une forme de mépris en considérant que leur fonction n'est pas importante et que leur statut n'est pas important. Moi, je ne comprends pas que quand on a des personnes qui passent le concours de première année d'études de santé, qui rentrent dans un cursus extrêmement long, on parle de 5 ans d'études, qui en mériteraient 6 en réalité, parce qu'on est sur un rythme extrêmement intense, qui exercent au quotidien au moment le plus précieux de la vie, c'est-à-dire le moment où les femmes vont donner la vie, où nos enfants vont naître, et on leur explique que elles ne sont pas considérées, qu'elles ne sont pas professionnelles médicales, mais qu'elles sont professionnelles non médicales, que leur rémunération aujourd'hui, quand pour une sage-femme qui démarre sa carrière, elle est de moins de 1 600 € net par mois, avec des horaires qui sont extrêmement étendus et avec une responsabilité extrêmement importante. Parce qu'une sage-femme qui commet une erreur, c'est potentiellement une naissance qui se passe mal, c'est un enfant ou une maman et qui peut décéder. Donc là-dessus, je crois qu'on a une responsabilité, c'est comment est-ce qu'on revalorise ces métiers-là, comment on reconnaît le rôle fondamental qu'ils ont dans notre société. On a beaucoup entendu parler des premiers de cordée. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de dire, il est temps de les reconnaître, ces premiers de cordée, et de leur permettre justement de vivre mieux de leur salaire, de leur travail, parce que je crois que c'est à l'essence même de la vie, sans mauvais jeu de mots en l'occurrence, quand il s'agit des sages-femmes.
De la même manière, les AESH, ces personnes qui aident les élèves en situation de handicap, ont manifesté cette semaine pour dénoncer leurs conditions de travail, un salaire très bas, un manque de reconnaissance de leur profession. C'est un sujet qui vous est très cher, c'est un combat qu'Anne Hidalgo va mener si elle est élue présidente de la République.
Tout à fait. Le combat des AESH est au cœur même de l'échange qu'on avait précédemment sur la question de l'école. Tous les enfants de la République ont le droit de pouvoir prétendre à une scolarisation. Elle doit être adaptée à leur situation, bien évidemment, et elle doit être en adéquation avec leur projet de vie, si je puis dire, et surtout leur capacité en fonction du handicap dont ils sont atteints. Quand on voit aujourd'hui, et moi j'en ai un certain nombre dans le 20e arrondissement où je suis élue, quand on voit qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ne peuvent pas suivre une scolarisation dite ordinaire, alors qu'ils en ont les moyens, qu'ils en ont les capacités, parce qu'ils ne sont pas accompagnés accompagner de la bonne manière ou pas suffisamment, non pas par volonté ou un manque de volonté des AESH, mais parce que quand vous avez une AESH pour deux ou trois enfants, comme c'est le cas dans certaines des écoles que j'ai sur ma circonscription, c'est inacceptable. C'est une perte de chance pour nos enfants. Pourquoi ? Pour des raisons de contraintes budgétaires et de manque de reconnaissance. Ce sont des personnes qui sont très engagées et qui permettent à un maximum d'enfants, quel que soit leur handicap, d'avoir accès à, aux apprentissages permis par l'école. Et ça, je crois que ça va être au cœur de notre projet. Sans égalité, on ne peut pas faire société ensemble. Sans égalité, il n'y a pas de République. Sans égalité, la promesse républicaine n'est pas remplie. Et donc, on rompt le pacte républicain. Et ça, c'est pas acceptable, surtout quand on est de gauche, comme moi et comme Anne Hidalgo.
Alors, vous êtes une élue du 20e arrondissement, l'Amiens et l'Arrache. L'actualité à Paris, c'est le déploiement cette semaine de la police municipale que réclamait la droite depuis des années. Est-ce que cette police sera à même de faire baisser les incivilités dans la capitale ?
Écoutez, d'abord, la police municipale, elle est avant tout réclamée par la gauche qui est en responsabilité de longue date sur Paris. C'est un combat que nous avons mené puisque, je le rappelle, le gouvernement d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur, le premier ministre de longue date, ne voulait pas voir Paris se doter d'une police municipale pour plein de raisons, à la fois historiques et à la fois, et surtout, je pense qu'il faut le souligner, politiques. Cette semaine, la première génération de policiers municipaux a été mise sur le terrain, si je puis dire, a été déployée. Elle a vocation à pacifier l'espace public et à répondre aux problématiques d'incivilité qui nuisent clairement au quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Moi, j'entends beaucoup dire Paris est sale ou les trottoirs sont pas nettoyés. C'est absolument pas vrai, les trottoirs sont nettoyés. Mais très vite, en fait, ils sont resalis. Mais qui les resalit ? C'est un problème d'incivilité. C'est-à-dire que dans l'espace public, il y a des gens qui considèrent que la rue est une poubelle. Et ça, ça doit être sanctionné. Pour pouvoir le sanctionner, il faut des agents assermentés, formés, déployés sur le terrain. Et c'est un des objectifs de la police municipale, faire de la prévention et faire de la répression sur un certain nombre de problématiques du quotidien. Et je crois que toutes les Parisiennes et tous les Parisiens peuvent en témoigner, des problématiques du quotidien qui peuvent paraître minimes, mais qui sont absolument insupportables à vivre quand on habite à Paris.
Dernière question, les députés socialistes ont voté contre la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Pour quelles raisons ?
Ça fait maintenant 18 mois qu'on vit avec ce virus qui est, on peut le dire, malheureusement, rentré dans nos quotidiens. Les Françaises et les Français ont fait preuve de beaucoup de discipline, à la fois au moment du confinement, et puis ensuite au moment du reconfinement, et puis au moment où on a mis en place le couvre-feu, au moment où on a restreint un certain nombre de nos libertés publiques via le pass sanitaire. Ils ont joué le jeu de la vaccination. Aujourd'hui, presque 90% des plus de 12 ans sont vaccinés. On voit globalement les gestes barrières respectés, et on vit maintenant depuis 18 mois avec toutes ces contraintes. Je crois qu'au moment où le taux d'incidence s'améliore et où ce virus est là depuis aussi longtemps, et semble-t-il qu'il est amené à durer, et qu'on est amené à apprendre à vivre avec, il est temps de lever un certain nombre de dispositions et de revenir à ce qu'on appelle le droit commun. Le pass sanitaire est une restriction de liberté, incompréhensible par ailleurs pour un certain nombre de Françaises et de Français, et là il n'est pas acceptable, sur ce point-là précis, qu'on puisse le reconduire en l'état. Le deuxième point pour nous d'opposition majeure, c'est que les élections présidentielles auront lieu en avril 2022, les législatives en juin 2022. Donc là on voterait des dispositions qui pourraient courir jusqu'à après les élections. Ça ne s'est jamais vu. Ça pour moi ce n'est absolument pas acceptable, et donc effectivement nous nous opposons à ce texte.
Merci, Lamia Elarage. Je rappelle que vous êtes députée de Paris, conseillère de Paris et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.